Faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.
Radio MDM, la dérobade, une rubrique éphémère, à présent, que l'on serait tenté d'intituler, pas seulement pour l'allitération, c'était cet été, histoire de repousser un peu plus le seum de ce jour de rentrée et de se souvenir des belles choses. L'été des festivals dans les Landes, dont celui de Musique à la rue à Luxeuil, une 33e édition majuscule, avec un grand M au sens propre comme au sens figuré, et le concert épique donné le 30 juillet dernier au Sarbounaise par Mathieu Chédid, la communion d'un artiste avec son public, dont une partie était également venu s'éblouir de la présence sur scène aux côtés du machistador, de la bassiste et chanteuse américaine au crâne rasé, la princesse aux pieds nus, Gayle Anne Dorsey. Gayle Anne Dorsey, c'est aussi une silhouette à la fois longiligne et gracieuse, au service des plus grandes légendes du rock, de Charlie Watts à Lenny Kravitz, en passant par Tears for Fears, mais surtout, et durant près de 20 ans, de David Bowie. C'est donc, non sans une certaine émotion que nous avons pu évoquer avec elle, son ineffaçable histoire avec l'homme qui venait d'ailleurs, lors de cet entretien exclusif et en deux parties que nous devons à son producteur Guillaume Diaz, son manager Phil Lorosic et Morgane Melleret pour Musique à la rue. Alors, question posée en ouverture à Gayle Anne Dorsey, sa première rencontre avec David Bowie. Nous étions alors en 1995, au micro et à la traduction texte votre serviteur. Remerciements appuyés pour la doublure voix de Gayle Anne Dorsey à Mélanie Haillé.
Mon Dieu, je ne me souviens pas de mes premiers mots quand je l'ai rencontré. C'était le premier jour de l'enregistrement de l'album Outside. J'étais tellement nerveuse. Je sais qu'une fois, je l'ai eu au téléphone. Il m'avait appelé à l'improviste pour me demander de participer à la tournée Outside qu'il effectuait avec Nine Inch Nails. Je crois que j'ai dû attendre un an, peut-être même deux, après avoir commencé à travailler avec lui pour lui demander pourquoi il m'avait choisi. Parce que je n'arrivais toujours pas à y croire. Je me pince encore parfois. Il m'a répondu qu'il m'avait vu à la télévision anglaise à la fin des années 80. Je dirais que c'était 89, oui, en 1989. Je faisais la promotion de The Corporate World, mon premier album solo. Je tournais beaucoup en Angleterre à l'époque, et je vivais là-bas, et lui aussi. Il m'a dit qu'il était à l'hôtel, en train de zapper devant sa télé, qu'il m'avait vu interpréter une chanson de mon album, et discuter avec le présentateur. Et ensuite, qu'il s'était rédigé une note mentale à lui-même qui disait que j'étais très intéressante, et que quand il aurait le bon projet, il adorerait travailler avec moi. Donc, il m'a appelé en 1995, ce qui veut dire qu'il a fallu 6 ans pour que ce projet aboutisse. Je n'arrivais pas à y croire. Mais après avoir appris à le connaître, au fil des ans, j'ai compris comment il avait pu me voir en 1989 et ne pas m'oublier pour m'appeler en 1995. Il avait une mémoire incroyable, pour tout. Pas seulement pour les gens, pour la littérature, le théâtre, la musique, c'était une véritable encyclopédie sur pattes. C'était vraiment un grand monsieur. Je sais que lorsqu'il voulait travailler avec un artiste, que ce soit un photographe, un cinéaste ou un designer, il faisait des recherches sur cette personne. Il arrivait à voir ses forces et comment cette personne pourrait au mieux faire ressortir sa vision de ce qu'il voulait. Donc, je suppose que quoi que j'ai fait dans cette émission de télé, je ne sais pas si c'est une sorcière qu'il regardait, mais je sais que c'était mon jour de chance.
Du Lucky Day à The Next Day, du nom de l'album sorti en 2013, le dernier en votre compagnie. Je me souviens d'un album inattendu, car tout le monde était persuadé que sa carrière était terminée à cause de ses problèmes de santé. Comment a-t-il orchestré, oui c'est ça, ce comeback après 10 ans d'absence en secret à l'heure des réseaux sociaux?
C'était sa mission. Il était déterminé à tout faire pour éviter que les réseaux sociaux ou les médias ne soient au courant.
Comment ça a été possible de garder cet enregistrement secret?
Ça a été très compliqué. Un jour, j'ai eu un appel de lui. Pendant tout le temps où il ne travaillait pas, nous nous envoyions quand même des mails de temps en temps pour me recommander un livre ou que je lui conseille un film. Il passait son temps essentiellement en famille. En fait, je ne savais pas qu'il continuait à écrire. Je ne lui ai jamais demandé. Je ne pouvais même pas soupçonner. Un jour, donc, il m'a appelé et il m'a dit qu'il voulait enregistrer un nouveau disque, mais que ça devait rester secret, 100% secret. Tu ne dois pas en parler à ta mère, tu ne dois pas en parler à ton mari, qui que ce soit, tu dois garder le silence. Je suis en train de chercher un studio à New York où nous pourrions le faire et être sûr que personne ne soit au courant. J'ai repéré quelques endroits, mais si jamais on nous grille, il faudra qu'on bouge à nouveau. Finalement, on s'est retrouvé au studio Le Magic Shop, où il a aussi enregistré son ultime album Black Star. Donc je suis partie dès le lendemain et pour 2 semaines à New York pour travailler sur The Next Day. Tous ceux qui étaient impliqués dans l'histoire devaient inventer un alibi. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté. Moi, à mes amis, j'ai dit que je venais pour jouer sur l'album d'un artiste suédois. Non, vous ne le connaissez pas. Donc je vais être absente pendant quelques semaines. La seule personne qui était au courant, c'était ma meilleure amie, Sarah Lee, la bassiste des B-52s, d'Indigo Girls, de Gang of Four. David la connaissait et l'aimait beaucoup. Je lui ai dit c'est la seule personne qui savait. Il m'a répondu, pas de problème, j'adore Sarah. Donc nous sommes arrivés en ville et on a travaillé durant 15 jours. Le truc le plus dingue, c'est qu'on n'avait pas le droit d'écouter la musique quand tout était terminé. Souvent sur les autres disques, on vous donne une cassette. Oh, une cassette. Ben voilà mon âge. Du moins, de la musique pour avoir une idée. Là, on venait la journée, on écoutait une forme de démo ou quelque chose qu'il avait créé. Il rajoutait des notes sur les partitions posées sur un pupitre. Mais à la fin de la journée, c'en était presque drôle. Il venait recueillir précieusement chaque chanson de façon très dramatique et la mettait dans une mallette comme un agent secret. Maintenant, fermez-la et rentrez chez vous. Ne laissez rien traîner derrière vous. On ne pouvait pas prendre de photos, personne ne pouvait se servir de son téléphone pendant les enregistrements. C'était tout le projet. Et même quand ça a été terminé, on n'avait aucune idée de quand ça sortirait. Je crois qu'on a enregistré peut-être 1 an avant, je ne me souviens plus maintenant. J'avais enregistré la majeure partie de l'album, mais 6 mois plus tard, il a voulu que je revienne enregistrer les chœurs alors que j'étais en tournée avec Olivia Newton-John et que je préparais des choses avec Lenny Kravitz. Donc cela aurait été compliqué de m'absenter plusieurs jours sans leur expliquer pourquoi. Et lui me disait « Quel jour tu es libre ?» C'est aussi la raison pour laquelle Tony Levin est l'autre bassiste sur les disques. Je ne pouvais pas être disponible sur toute la session parce que je ne pouvais dire à personne avec qui j'enregistrais.
Aujourd'hui encore, j'imagine que David Bowie vous accompagne toujours au quotidien.
Il est toujours avec moi. Je veux dire, pour moi, musicienne, je n'aurais pas pu avoir un meilleur rôle auprès de lui. Aucun autre artiste n'aurait pu bouleverser ma vie de la sorte après avoir travaillé avec lui. C'est grâce à lui que vous parlez avec moi aujourd'hui. C'est grâce à lui que les gens me reconnaissent, mais surtout, en tant qu'artiste, j'ai fait mon apprentissage avec lui. C'est comme travailler avec un maître, comme être l'apprenti de Michel-Ange. Je veux dire, vraiment pour moi, c'est un génie, un des plus grands artistes de mon époque.
Un artiste que Gaylan Dorsey aura donc accompagné pendant près de 20 ans, l'un inspirant l'autre, pour paraphraser l'un des tubes de M, Mathieu Chélide, que côtoie désormais la charismatique et bassiste chanteuse que l'on retrouve juste après cette pause étoilée.
To the heavens, the stars are the stars around tonight.
Ce fut l'un des derniers titres enregistrés par Gaylan Dorsey auprès de David Bowie en 2013, intitulé « The Stars Are Out Tonight ». Les étoiles étaient de sortie également dans le ciel de Luxeuil ce 30 juillet 2023 et sur la scène des Sarmounais du festival Musique à la rue où se produisait Mathieu Chédid, accompagné désormais sur scène de la légendaire bassiste et chanteuse américaine. Comment d'ailleurs la rencontre entre les deux artistes a-t-elle eu lieu ? L'entremetteur est loin d'être un inconnu. C'est même une sommité du rock. Il s'appelle Alain Lahana. Il est notamment le producteur d'Iggy Pop, de Patti Smith ou encore de Catherine Ringer. Et pour la grande histoire landaise, est à la co-origine des festivals punk de 76 et 77 dans les arènes du Plumasson à Mont-de-Marsan. La suite, c'est Gaylan Dorsey, par toujours la voix de Mélanie Hayé, qui nous la raconte.
Je connais Alain depuis longtemps. J'étais en France durant le confinement et je voulais faire venir mon compagnon qui est français. Et c'était compliqué aux frontières avec le Covid. Je cherchais un endroit pour travailler. J'avais juste besoin d'une petite pièce. Je m'étais inscrite sur le site Patreon pour faire des petites vidéos en ligne pour les abonnés et pour faire interagir les fans. Ça me permettait d'avoir quelques revenus car je ne pouvais plus ni tourner ni enregistrer. En fait, j'avais besoin d'un peu d'espace. Et les chambres parisiennes sont vraiment très petites. Donc j'ai appelé Alain, je lui ai dit « Je suis à Paris, je cherche une chambre où je puisse poser ma table, ma chaise, mes haut-parleurs, mon ordinateur portable. » Alain a passé des coups de fil. Et 24 heures après, il me rappelle en se marrant et il me dit « Je crois que j'ai trouvé encore mieux qu'une chambre ». Il m'explique qu'il avait échangé avec Mathieu Chédid, que Mathieu était fan de mon travail. Il lui a répondu « Là, je suis confiné chez moi à la campagne. Sinon, j'ai un studio à Paris ». Il m'a fait passer les clés. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais je connaissais le travail de Mathieu depuis son troisième album, Le Rose. À l'époque où il est sorti, j'étais sur Paris. Je travaillais avec Bowie et je m'informais toujours sur ce qui sortait de nouveau en France ou en Angleterre. Et donc je l'ai acheté. J'adore cet album. Je ne parle pas très bien français. Je ne comprenais pas grand-chose aux paroles, mais la musique est très belle. Il est dans ma collection. Et puis je n'y ai plus repensé. Alors, quand Alain m'a dit « Matthew Shedid, c'est M », j'ai dit « C'est le mec qui a fait l'album Rose ?» Il m'a dit « Oui, c'est lui !» Je ne savais pas qu'il avait continué depuis.
Celui avec un cœur dans la guitare ?
Exactement, Billy, c'est le nom de la guitare et aussi celui de sa fille. Je ne savais pas qu'entre cet album, Qui de nous deux, et aujourd'hui, il était devenu l'une des plus grandes stars en France. Je n'avais pas écouté d'autres chansons. J'ai vraiment été surprise de voir à quel point il était devenu célèbre depuis. J'ai été très flattée qu'il me fasse confiance et qu'il me prête cet endroit. Je ne l'ai rencontré que plus tard, à la fin du mois. Avant ça, je restais chez lui à travailler tous les jours. Alors j'ai pu le rencontrer et déjeuner avec lui dans sa maison studio en dehors de Paris. Il travaillait sur Rivalité, l'album avec lequel nous tournons actuellement. Et là, il m'a dit, « Laisse-moi te montrer ce sur quoi je travaille. Peut-être que tu voudrais faire la basse ? Et tu fais quoi le week-end prochain ? Peut-être que j'aurai 2-3 trucs à te montrer. » Donc, petit à petit, j'ai intégré l'album et travaillé ensemble est devenu très excitant. Et quand le disque a été terminé, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu dirais de faire la tournée ?» Et me voilà. Là, on arrive à la fin de la tournée. Ça fait presque 2 ans que je suis sur la route avec lui. Il est l'une des personnes les plus généreuses et les plus douces avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Et il est tellement talentueux. C'est juste une bénédiction d'être à ses côtés. Il a tellement élevé ma présence en France que j'espère bientôt sortir ici un second album solo. Que les Français m'aient aussi bien accueilli, cela me touche énormément. Je lui suis vraiment reconnaissante pour ça.
Vous avez découvert Matthew, vous avez découvert l'artiste, l'homme et son public aussi.
Oui.
Vous en diriez quoi ?
Incroyable ce public. Je n'avais jamais vu Matthew en concert, ni vu de vidéo. Et quand j'ai fini l'album Rivalité, je suis rentrée chez moi à New York pour quelques temps et ils m'ont envoyé des DVD live avant que j'attaque la tournée. Alors quand j'ai mis le premier et que j'ai vu le public et ce qu'ils faisaient, leur déguisement, je me suis dit, ça ne peut pas être le même mec, parce qu'il est très calme, très tendre, il parle très doucement. Je ne l'aurais jamais imaginé si vivant et vibrant autant sur scène. J'étais choquée. Je lui ai même dit que quand on chantait sur scène, ça me faisait penser au Rocky Horror Picture Show. Je ne sais pas si les gens connaissent. C'était un film très célèbre aux États-Unis dans les années 70. Tout le monde allait le voir au cinéma avec des accessoires du film, genre des parapluies. L'interaction du public avec Matthew m'a fait penser à ça. Ils font partie intégrante du show. On ne joue pas seulement et ils écoutent. Non, j'ai l'impression que tous les musiciens sur scène ressentent leur énergie. On peut ressentir beaucoup de bonnes énergies en concert. Mais il y a quelque chose de spécial avec Matthew. C'est peut-être quelque chose de typiquement français.
Comment Matthew Shedid vous a présenté son idée de reprendre en duo la chanson « À toi » de Joe Dassin ? Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissiez Joe Dassin ?
Je ne connaissais pas cette chanson. Quand Matthew m'a dit que j'allais devoir faire les chœurs de chansons en français sur Rivalité, il était aussi curieux de voir comment je pouvais porter ce titre. Mais au lieu de me laisser chanter seule, il m'a dit « Allez, on le fait ensemble ». Il m'a envoyé une version qu'il avait faite avec Vanessa Paradis, je crois. Et on a gardé quasiment la même musique en changeant juste 2-3 choses. Et j'ai dû apprendre à la chanter d'un bout à l'autre en français. C'était super. Je ne savais pas si j'allais y arriver. J'ai travaillé dessus très dur et quand je suis allée faire la session d'enregistrement, tout le monde a applaudi à la fin. Même la mère de Matthew m'a dit « Ouais, génial !»
Et voilà comment vous avez chanté pour la première fois en français.
Oui, j'ai adoré ça. J'étais tellement fière de moi. Je crois même que j'ai pleuré après, j'étais tellement heureuse.
Sur cette version, les mots sonnent différemment. Avant, c'était une chanson légère et là, c'est devenu une vraie déclaration d'amour.
Oui, c'est vrai. La musique me fait penser à Abba. J'espère que ce n'est pas une mauvaise référence pour les gens qui nous écoutent, le fait que j'adore Abba. Mais je trouve qu'il y a un peu le même groove dans cette version. C'est vraiment super de pouvoir la chanter.
Pour terminer, Joe Dassin était un chanteur américain, adulé par les Français.
C'est vrai. Je ne savais pas ça. Il faut absolument que je me renseigne sur son histoire.
Il vivait en France, à Paris, comme vous. Est-ce que vous ressentez l'amour que les Français vous portent ?
C'est vraiment spécial pour moi, parce que depuis que je suis toute petite, je ressentais l'envie d'aller en France. Je pense que j'ai dû être française dans une vie antérieure ou quelque chose comme ça. Bien sûr que je ne parle pas la langue, mais je vais faire de mon mieux.
Oui.
Je ne parle pas bien.
Je peux comprendre. Vous savez, c'est la première fois que je passe autant de temps en France. Mais je vais m'améliorer. Je vais chanter plus en français. Et oui, je sens l'amour que me porte le public français. C'est un honneur pour moi. Un très grand honneur. Parce que vous savez, la France, c'est la culture, la musique, la littérature, les arts.
Est-ce que vous avez une chanson favorite en français ?
Ce serait...
Wow.
À part à toi.
Requiem pour un con.
Ah, de Serge Gainsbourg.
J'adore cette chanson. Elle est dingue.
À cause des percussions, de la basse.
Oui, c'est un titre tellement funky. C'est une de mes préférées. Et j'adore aussi Piaf. Bien sûr, La Vie en Rose.
Thank you. Merci beaucoup, Gaëlan Dorsey.
Avec plaisir.
À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. Prince charmant, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi. À mes silences et à mes trahisons quelquefois. À moi, au temps que je passais à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de paladin. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, en souvenir que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces milliers d'amants qui sont comme nous. À toi.
MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.